France Culture. Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 8h. Fragilisé par la défection de LR, Sébastien Lecornu n'aura pas la tâche facile pour composer son gouvernement. Il pourrait l'annoncer demain ou après-demain. Le Hamas commencera à libérer les otages israéliens demain matin, comme prévu dans la première phase du plan américain. La suite s'annonce plus difficile. Un sommet de la paix se tiendra demain après-midi en Égypte. Et puis, entrée en vigueur aujourd'hui d'un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières de l'UE pour les ressortissants non européens. Il vise notamment à assurer un meilleur partage d'informations entre États membres. Sébastien Lecornu, pris en étau entre les LR et l'UDI qui ne veulent pas entrer dans son gouvernement et les socialistes qui menacent de le censurer s'il n'y a pas d'avancée sur les retraites. Dans ces conditions, à quoi ressemblera la prochaine équipe dont la composition devrait être dévoilée demain ou après-demain selon la Tribune dimanche? Écoutez ce qu'en pense Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et constitutionnaliste.
Vous comprenez bien que si vous mettez que des renaissances, quand même les renaissances voudraient en être, ce qu'on verra, vous allez avoir un gouvernement qui va être taxé de n'être composé que de macronistes, ce qui sera vrai et ce qui posera plus de problèmes politiques qu'autre chose. Donc on va avoir essentiellement un gouvernement d'individualité avec des figures locales, techniques, potentiellement des quelques figures malgré tout politiques. Après, un gouvernement d'individualité, c'est intéressant, mais ça ne vous assure pas un soutien politique à l'Assemblée nationale. Donc on va avoir un gouvernement dont la seule légitimité, en fait, viendra d'un président de la République qui aura nommé un Premier ministre. Et ça, évidemment, ça fragilise les choses. Ça veut dire que l'ensemble des groupes politiques va se sentir libre, peut-être pas de censurer, mais à minima, de se positionner sur les amendements, sur les textes, comme ils le souhaitent. Donc à partir de là, c'est un gouvernement qui va être un gouvernement extrêmement fragile. On a un président qui est probablement le plus fragile de toute la Ve République et un Premier ministre qui ne peut également s'appuyer sur réellement aucun groupe politique qui lui est tout à fait acquis, ce qui montre une faiblesse de l'exécutif tout à fait historique.
Le constitutionnaliste Benjamin Morel au micro de nos confrères de France Info. Dernières heures avant la libération des otages israéliens, le Hamas a annoncé qu'il commencerait l'opération demain matin. Côté palestinien, aucune figure emblématique ne sortira de prison en échange de ces otages et notamment pas Marwan Barghouti du Fatah. Alors quel avenir politique pour la Palestine maintenant que les armes se sont tues à Gaza? Marie-Pierre Véraud est allée sonder les étudiants de l'université Birzeit de Ramallah. Reportage.
Mounia étudie à la faculté de journalisme et pour elle, le doute n'est pas permis. L'ancien cadre du Fatah devrait être libéré. Il est une chance pour la Palestine.
Marwan Barghouti est très populaire dans la jeunesse, pour la rue palestinienne. Il a une belle histoire de lutte, pas juste pour le Fatah, mais pour tous les autres partis politiques.
Mais Shahin estime que c'est le Hamas qui peut offrir un avenir à son pays. Et le mouvement islamiste ne doit, pense-t-il, abandonner ni la politique, ni les armes.
C'est sûr, il aura un rôle actif, mais pas seul, avec tous les partis palestiniens. Un rôle à la fois politique, mais aussi militaire. La politique n'est pas suffisante. Sans le soutien des groupes armés, nous n'obtiendrons jamais de liberté pour la Palestine.
Une Palestine rongée aujourd'hui par les dissensions, rappelle Yaffa. Elle voudrait que l'on redonne la parole au peuple.
Le Hamas et l'autorité palestinienne ont des lignes de conduite différentes, des positions irréconciliables. Seules des élections permettront de nous départager. Je pense qu'il faudra voter pour le meilleur, et c'est le Hamas.
Pour de nombreux jeunes Palestiniens de Cisjordanie, le mouvement islamiste aura toujours un rôle à jouer dans l'avenir.
Marie-Pierre Véraud à Ramallah avec Gilles Gallinaro. Pour la suite du plan américain, le Hamas s'attend à des négociations très difficiles, hors de question notamment pour le mouvement palestinien d'accepter son désarmement. En Israël, ils étaient encore des milliers hier soir place des otages, en présence de Steve Witkoff. L'émissaire américain s'était rendu plus tôt dans la journée à Gaza avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et le chef de l'armée israélienne. Demain après-midi, un sommet de la paix se tiendra en Égypte, co-présidé par Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays, dont Emmanuel Macron, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Des soldats malgaches rejoignent les milliers de manifestants réunis hier dans les rues de la capitale, Antananarive. Condamnant la répression policière récente, ils ont appelé les forces de sécurité à refuser les ordres de tirer sur la population du jamais vu depuis le début de la contestation lancée par le mouvement Gen Z le 25 septembre dernier. Un mouvement qui s'est mué en une remise en cause des responsables politiques au pouvoir. C'est aujourd'hui que commence à se mettre en place le système d'entrée et de sortie de l'Union européenne, un nouveau système informatisé de contrôle aux frontières qui concerne les ressortissants non européens. À terme, il remplacera les fameux tampons que les polices aux frontières continuent d'apposer sur les passeports et devrait améliorer la gestion des flux migratoires. Fabien Cazot.
Ce sont désormais des contrôles automatisés auxquels devront se soumettre les ressortissants non européens lorsqu'ils veulent entrer en Europe. Quasiment tous les pays membres de l'Union mettront en place ce système dans les 6 mois à venir, ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. De nombreuses données seront ainsi collectées, des données biométriques telles que les empreintes digitales ou des captures d'images faciales, les dates et les lieux d'entrée et de sortie, ainsi que d'éventuels refus d'entrée qui seront également consigné. Objectif, créer un historique entièrement informatisé pour chaque ressortissant non européen consultable dans n'importe quel autre pays membre du système. Pour la France, un des enjeux sera la gestion de sa frontière avec le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'Union européenne et qui n'a pas adopté ce nouveau système, mais qui a tout de même accepté l'installation de bandes automatiques au port de Douvres et dans la gare londonienne de Saint-Pancras pour permettre un contrôle anticipé des voyageurs à destination du continent.
Fabien Cazot à Bruxelles. La mort de Diane Keaton, l'actrice américaine connue notamment pour sa collaboration avec Woody Allen et son rôle dans Le Parrain, avait 79 ans. Sa performance dans la comédie Annie Hall de Woody Allen justement lui avait permis de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice en 1978. Le temps aujourd'hui toujours très ensoleillé après dissipation de quelques brumes matinales, un peu moins sur l'extrême nord et en fin de journée sur les Pyrénées. Les températures maximales 16 à 22 degrés sur les deux tiers nord, 22 à 27 au sud.